Alors, on va commencer le débat et les intervenants qui vont arriver d'un moment à l'autre nous rejoindront, on espère, oui, nous rejoindrons et prendront un peu le débat dans la foulée. Alors, bonsoir à toutes et à tous et merci d'être venus ce soir à ce premier caféine de l'année 2015. Pas premier caféine tout court, puisque c'est une édition anniversaire. Vous savez peut-être que la soirée de ce soir est un peu spéciale, puisque les cafés scientifiques de l'Université de Neuchâtel fêtent cette année leur 10 ans. Et pour marquer l'événement comme il se doit, avant le buffet, il est peut-être aussi important de rappeler que vous êtes tous conviés à l'issue de ce café scientifique, de cette discussion, aux alentours de 19h30, si on n'est pas en retard, on verra. Vous êtes tous invités à un buffet. Et pour marquer l'événement, comme il se doit, donc avant le buffet, à événement d'importance, sujet d'importance aussi, un vaste territoire de questionnement qu'on va tenter de baliser un peu, au moins, ce soir, l'Amérique, carrément, ou plutôt son idéal, ce fameux rêve américain, dont on croit souvent connaître les ingrédients du mythe et dont on dénonce aussi souvent les manquements dans la réalité. Qu'est-ce qui fait dire encore aujourd'hui « I want to live in America » et peut-être pas seulement au personnage de comédie musicale. La réalité du rêve américain, c'est donc la question qu'on va se poser ensemble ce soir en écho à une discussion qui s'était tenue ici même il y a tout juste 10 ans, c'était précisément l'objet de la discussion qui a ouvert le tout premier café scientifique il y a 10 ans, qui proposait de s'interroger sur les États-Unis ou les limites de l'idéalisme. Je crois que mes deux camarades de table étaient présents. David Sylvan, vous étiez là à l'époque. Patrick Vincent aussi, vous aviez participé à ce débat. Certains d'entre vous y étaient peut-être aussi à l'époque et s'en souviennent. C'était en janvier 2005, c'est évidemment un autre contexte politique, plutôt tendu pour les États-Unis à l'époque, dans les relations avec les autres pays, mais aussi peut-être au niveau intérieur, au niveau des relations de l'Amérique avec elle-même, avec ses propres valeurs. George Bush, fils, venait d'être réélu face à John Kerry pour un deuxième mandat. Et ces années Bush, beaucoup aux États-Unis comme ailleurs, on s'en souvient, on les a vues comme des années de déclin, voire peut-être même de trahison ou de perversion du rêve américain, une période en tout cas de crise identitaire pour les États-Unis. On peut parler de l'après 11 septembre, bien sûr, le tour de vis sécuritaire du Patriot Act, les bourbiers irakiens et afghans, le traitement des prisonniers à Guantanamo, les tortures dans la prison d'Abu Ghraib en Irak, ou encore en 2008 la crise des subprimes. Dénoncer parfois avec beaucoup de virulence, comme autant d'entailles à l'idéal de liberté et d'égalité porté par les États-Unis. 10 ans plus tard, donc l'occasion pour nous de rouvrir la discussion et de prendre le pouls de l'Amérique, des nouvelles de cet idéal aujourd'hui au deuxième mandat de Barack Obama. Après les espoirs très très vifs que ce premier président noir des États-Unis a suscité, que reste-t-il aujourd'hui du rêve américain ? Bonsoir, on accueille Marc Atala qui nous rejoint. Il nous manque un intervenant, mais qui va arriver d'ici une vingtaine de minutes. Il a raté son train, c'est Urstis Wilert qui va nous rejoindre très rapidement. Pour en parler donc avec nous ce soir, je vais quand même présenter tous ceux qui sont avec moi autour de cette table. Nous avons le plaisir de recevoir des invités de grande qualité et des fins connaisseurs, bien sûr, des États-Unis à des titres plutôt différents. On va commencer par vous, Patrick Vincent, professeur de littérature anglaise et américaine à la faculté des lettres de Neuchâtel. Et vous étiez donc à l'origine de l'organisation de ce premier débat sur l'idéal américain il y a 10 ans. À côté de vous, David Sylvan, professeur en relations internationales et en sciences politiques à l'École des hautes études internationales et du développement de Genève, et Marc Atala, directeur de la Maison d'ailleurs d'Yverdon, pas très loin d'ici, grand spécialiste notamment de la science-fiction, je crois, et des utopies. Et la Maison d'ailleurs, votre musée, qui a hébergé récemment, je crois que c'est fini, une exposition sur les super-héros américains qui s'appelait Superman, Batman & Co. Mix. mais je crois qu'elle n'est malheureusement plus à l'affiche. Il y a sans doute une autre exposition en ce moment à la maison d'ailleurs, tout aussi passionnante. Merci à vous trois d'avoir répondu présent ce soir. On attend également Urs Tiswiller, qui va arriver d'un instant à l'autre, qui est l'ancien ambassadeur de Suisse aux États-Unis de 2006 à 2010. Donc il a vécu ce moment de bascule entre la période Bush et l'élection de Barack Obama. Il nous fera part de son expérience et de ses impressions en tant qu'ambassadeur de Suisse à Washington à l'époque. Alors, merci à vous quatre d'avoir répondu présent ce soir et pour tenter de nous aider à interroger, j'espère à mieux comprendre ce que signifie le rêve américain dans l'Amérique de 2015, comment définit ce rêve l'Amérique de l'ère Obama. Et avant peut-être de vous passer la parole dans un instant rapidement, et puis à vous tous aussi hein, dans la salle, puisque vous pouvez intervenir à tout moment, je crois qu'il suffit de lever la main et normalement il y a un micro qui se balade et qu'on peut vous passer assez rapidement. Donc n'hésitez pas à lever la main quand vous avez une question à poser, une remarque à faire, une expérience à partager. On est évidemment ravis d'avoir aussi votre retour à vous. Alors, comment définir ce rêve américain dans l'Amérique d'Obama? Il faut quand même rappeler qu'on s'en souvient aussi, Barack Obama avait bien sûr particulièrement investi symboliquement cet idéal du rêve américain durant sa campagne de 2008. On se souvient du fameux « Yes, we can », devenu un slogan mondial, et on s'en souvient aussi dans son premier discours d'investiture, il y a tout juste 6 ans, en janvier 2009, un discours d'investiture, déclaration d'intention, et de restaurer ce rêve américain. Il parlait de « remaking America », qu'on peut lire aussi comme une presque parfaite, classique définition de ce rêve américain, parce que tout y est. J'ai relu hier soir l'énergie, l'idée de jeunesse, « we remain a young nation », le sens de l'effort et de la responsabilité individuelle, la valorisation de ceux qui prennent des risques, qui entreprennent, la foi en la prospérité économique, progrès technologique, et puis, bien sûr, la liberté, cette possibilité pour chacun de réussir, dont Obama, évidemment, présente son accession même à la Maison-Blanche, en tant que noir, comme un emblème. Alors, pour commencer, est-ce que, je me tourne vers vous, David Sylvan, est-ce qu'on peut, dire qu'il y a eu un tournant et que Obama a, d'une certaine manière, permis de restaurer ce rêve américain, de réconcilier le pays avec lui-même, en tout cas avec cet idéal? Je vous passe le micro, vous l'avez.
Je crois que Obama a beaucoup voulu faire tout ça. Il pensait, quand il était élu, qu'il pourrait se poser comme quelqu'un qui a réconcilié et a concilié donc les différences, du corps politique américain. Il était vraiment frappé par toutes sortes de politiques menées par l'administration Bush, etc. Et je crois qu'il a, pendant pas mal d'années, donc il a pensé qu'il pourrait donc réconcilier les conservateurs, les progressistes, etc. Je crois qu'en fin du compte, maintenant il se rend compte qu'il s'est trompé, gravement, parce que évidemment il y a des clivages qui restent plus vifs qu'avant, et actuellement c'est presque impossible d'avoir même une trêve pour cela. Mais je voudrais dire que pour moi la chose plus intéressante, c'est précisément qu'Obama a choisi ce discours qui était vraiment axé sur les grands thèmes, comme vous avez évoqué tout à l'heure, donc les grands thèmes, les grandes, effectivement, phrases dans l'histoire du discours politique américain. On peut exactement trouver précisément le même type de paroles par des présidents, pas seulement dans le XXe siècle, mais également dans le XIXe siècle. Et je dirais peut-être même pour les quelques présidents à la fin du XVIIIe siècle. C'est-à-dire donc qu'il a puisé très fortement dans tous ces textes classiques américains, et Et à ce moment-là, on peut bien s'interroger pourquoi, avec tous les problèmes qu'ont connus les États-Unis pendant des décennies et des décennies, les problèmes ne sont pas évidemment quelque chose de récent, ça remonte à des années et des années, pourquoi les acteurs politiques continuent à utiliser exactement la même rhétorique. Et pour moi, c'est quelque chose qui parle exactement à cette notion de rêve américain, c'est quelque chose qui indique à la fois, d'une part, qu'il y a certains facteurs structurels qui peuvent évidemment aider des gens à réussir là-bas quand ils sont des immigrés, etc. Mais également, ça part, je dirais presque, d'une pauvreté du vocabulaire américain, du vocabulaire politique américain. Le fait qu'il n'y a pas énormément de choses à dire. C'est un argument, comme je vous ai indiqué l'autre jour, c'est classique, un argument que je puise des arguments d'un historien tel que Louis Hertz, etc. Et on voit effectivement que les acteurs politiques américains sont condamnés exactement, tournés en rond et utilisés exactement les mêmes phrases. Et ça, c'est nuisible du point de vue donc, d'affronter réellement les problèmes. Mais ça, c'est peut-être un autre sujet.
Donc, de la pure rhétorique, une sorte d'exercice un peu obligé. Obama avait quand même suscité, et suscite peut-être toujours, beaucoup d'espoir, et symbolique et concret. Rien n'a changé. L'Amérique de 2015, et par rapport à cet idéal et ce rêve américain, elle est toujours au même point, elle est toujours la même que ce qu'elle était avant l'élection d'Obama. Patrick Vincent, peut-être, je ne sais pas si c'est votre sentiment également.
Bonsoir. Je dois avouer d'abord que j'ai enlevé mon autocollant qui disait « Yes, we can » au-dessus de la porte de mon bureau il y a quelques semaines. Donc, oui, je suis comme beaucoup de personnes aux États-Unis.
Geste symbolique.
Geste très symbolique. Je suis évidemment un petit peu déçu parce que le peu qu'Obama a réussi à faire en 8 ans ou en 6 ans, mais je ne dirais pas qu'il n'a rien fait. Avoir réussi à passer le Health Care Act est quand même quelque chose de monumental dans un pays qui ne voulait pas admettre qu'il y avait un problème de santé publique. On a essayé de faire obstruction à tout ce que Obama a essayé de faire depuis ses premiers jours à Washington, malgré le fait qu'il a été élu de façon très claire. Et à mon avis, il n'a jamais eu de chance. On ne lui a jamais donné une chance de pouvoir changer ce pays. Quand vous voyez le discours qu'on entend, quand on entend le discours, par exemple, dans ce qu'on appelle le Sun Belt, c'est-à-dire tout le sud des États-Unis où il y a énormément de retraités, par exemple, pour eux, Obama est le diable. Il incarne le diable. Donc, c'est difficile d'imaginer qu'il ait pu faire quelque chose en 6 ans.
Marc Attallah, je me tourne vers vous. La période de la présidence Bush était évidemment très très marquée par l'après 11 septembre. Dans le monde de la culture, de la culture populaire, qu'est-ce qui a changé aujourd'hui? Qu'est-ce qui caractérise la culture populaire américaine de 2015 par rapport à ce qu'on a pu connaître au début des années 2000? Est-ce qu'on est plus ou moins dans les mêmes motifs ou on est dans autre chose aujourd'hui?
C'est très compliqué, comme je vous le disais aussi au téléphone, à répondre à cette question, parce que la culture populaire, ça engage déjà un nombre incroyable de textes, de productions. Si on pense aux États-Unis, ce qu'on peut-être la facette qu'on connaît le mieux ici, c'est-à-dire les romans, les films et la bande dessinée, enfin les comic books, c'est énorme en fait. Donc on ne peut pas tellement, à mon sens du moins, trouver une sorte d'indicateur qui dirait il y a quelque chose avant 2000, et puis après 2000, où il y a quelque chose après, aujourd'hui en 2015. Ce qui est sûr, c'est de voir peut-être que dans le système, on voit des phénomènes apparaître assez intéressants dans les années 80, plus que les années 2000, j'ai pas l'impression. Évidemment, quand vous avez un traumatisme comme le 11 septembre, vous avez invariablement une sorte de métabolisation de ce traumatisme dans les productions culturelles. Le problème, c'est que souvent, on les analyse comme ça seulement. On ne voit pas aussi comment elles peuvent réinventer la manière de gérer le traumatisme. Ce n'est pas seulement des reflets. Ça s'inspire d'un reflet, mais ça peut retravailler le reflet. J'ai l'impression que depuis les années 80, l'Europe découvre, je pense peut-être plus intéressant de parler de ça comme ça, l'Europe découvre une industrie culturelle américaine qui s'interroge elle-même à travers ses propres productions, ce qu'on appellerait dans les études littéraires, par exemple, l'autoréflexivité. On commence à voir des bandes dessinées qui se thématisent elles-mêmes dans leur propre production, des films qui se thématisent eux-mêmes ou qui thématisent des phénomènes historiques ou culturels à l'intérieur même de ces productions. Le risque que l'on a, c'est qu'on ne, si on ne partage pas cette espèce de base, finalement, de code, de motif, d'histoire, ce qui est le cas pour la plupart des Européens, on ne comprend pas ces choses-là. On ne voit pas ces phénomènes et on se dit « Ah tiens, c'est du populaire américain », avec ce qu'on avait aussi discuté par téléphone, c'est le mot populaire en Suisse, dans le monde francophone, c'est pour le peuple, un peu inculte. Évidemment, ça n'a rien à voir. Aujourd'hui, un auteur comme Houellebecq, qui a un peu d'actu actuellement, c'est un auteur qui n'est pas du tout populaire en termes d'écriture, mais qui, aux États-Unis, serait considéré comme populaire dans l'espèce de diffusion immense de ses romans quand ils sortent. Et donc aujourd'hui, on se retrouve plutôt avec, j'ai envie de répondre comme ça à votre question, même si ce n'est pas tout à fait ce que vous vouliez, on se retrouve avec le fait que l'industrie culturelle américaine sur les domaines que je connais, c'est-à-dire principalement la bande dessinée, les romans et les films, est en train de passablement se réfléchir elle-même à l'intérieur de ses productions, mais qu'elle n'est pas perçue ou peu perçue par les Européens qui ne connaissent pas, en fait, finalement, cette espèce d'histoire qui a à peu près 100 ans, je pense, avec la fin du 19e, les dime novels, puis après les pulp magazines, etc., qui sont absolument inconnus en Europe. C'est ce qui fait que quand le film, par exemple, Pulp Fiction était sorti de Tarantino, je ne sais pas comment un Européen peut comprendre ce film s'il n'a jamais vu un pulp magazine de sa vie, ce qui est le cas, de, à mon avis, 99% des Européens. Donc je dirais plutôt ça, elle se réinvente de l'intérieur, mais c'est l'Europe qui a de la peine à la saisir, ou à saisir cette réinvention, parce que oui, un vaisseau spatial en 1920, c'est toujours un vaisseau spatial en 2015, par exemple, mais sauf que ce n'est plus le même. Et qu'est-ce qui a changé ? Eh ben, c'est un peu compliqué quand on ne connaît pas l'histoire du vaisseau spatial. Je prends un exemple évidemment un peu trivial.
Je pensais évidemment en termes de grands récits, disons de façon un peu schématique. On pense évidemment à Hollywood. On se souvient que après, moi je ne suis pas du tout une spécialiste du cinéma hollywoodien, mais il me semble qu'après le 11 septembre, les récits hollywoodiens étaient quand même assez marqués par les événements, peut-être de façon diverse. Est-ce que, et aussi peut-être une forme de critique du gouvernement Bush dans la culture, est-ce qu'aujourd'hui, justement, ce récit, ce grand récit, s'il fallait le schématiser, c'est un peu déplacé ou est passé un peu à autre chose, s'intéresse à d'autres choses ?
Alors bon, dans la science-fiction, qui est peut-être l'esthétique américaine que je connais le mieux, vous avez des mouvements éminemment critiques dans les années 60-70 avec la contre-culture américaine qui se retrouve dans des mouvements de science-fiction dont l'auteur le plus connu en Europe, c'est Philip K. Dick, qui écrit un petit peu avant, mais qui commence un petit peu à être assez virulent par rapport au système. Avec cette idée très intéressante chez K. Dick dans les années 60, c'est que le monde américain est une sorte de simulation, donc de fiction, à laquelle les gens croient, donc en fait l'auteur de science-fiction doit s'amuser à renverser cette simulation pour faire que, par exemple, c'est pour ça que dans Blade Runner on ne sait pas qui sont les réplicants et qui sont les humains, cette idée en fait que le monde américain tel que le perçoivent les auteurs américains des années 60-70 est une simulation qu'il faut renverser pour pouvoir percevoir une forme d'aliénation, on va dire, des masses ou de la population. Et ce phénomène, on le retrouve toujours aujourd'hui, si ce n'est qu'il s'est déplacé en étant peut-être un peu moins virulent par rapport à la politique américaine, mais plus par rapport à l'imaginaire américain. Vous évoquiez une exposition que j'ai effectivement montée l'année passée sur les super-héros, qui était plutôt la manière dont les artistes européens s'emparent des super-héros pour en faire autre chose. C'est un phénomène qui est typique des années 80 jusqu'à aujourd'hui, où on commence à avoir des figures de l'imaginaire américain, Superman, 1938, qui, plutôt que d'atterrir au Kansas, comme c'est de la tradition, atterrit à la même époque, donc toujours en 1938, en Ukraine, donc sous Staline. Et on commence à réfléchir aux archétypes propagés par la fiction américaine à l'intérieur même de la production américaine. Et c'est quelque chose qui est assez intéressant. Donc on est peut-être moins dans la critique directe de l'État, qui était quand même relativement lisible, mais on est plutôt sur une critique ou une réflexivité des motifs eux-mêmes à l'aune de leur symbolique, et donc, pas supplémentaire, à l'aune de l'État qui peut permettre à cette symbolique de s'incarner dans des institutions, par exemple. Donc, là, il y a un pas supplémentaire, c'est ce qu'on appelle la postmodernité en art, en fait, en gros.
Alors, une déconstruction du mythe ou du rêve, l'idée que peut-être les masses croient ou adhèrent à un mythe alors qu'en fait ils sont peut-être oubliés de cet idéal, de ce rêve américain. Est-ce que on peut parler aujourd'hui d'une Amérique unie ou désunie dans l'Amérique d'Obama avec d'éventuels oubliés de ce rêve américain, David Sylvan?
Bien sûr, il y a des oubliés. Mais je crois une des choses les plus intéressantes pour moi, c'est le fait que, en partie à travers de certains mouvements culturels, et je dirais par ailleurs que un des problèmes à discuter les États-Unis, c'est que c'est un pays tellement énorme, pas seulement du point de vue physique, mais du point de vue de toutes sortes de subcultures en quelque sorte, de différentes sociétés, de différents groupes qui se côtoient d'une certaine forme, mais d'autre part qui sont vraiment très très différents. Et disons l'échelle est tellement différente que dans n'importe quel pays ici en Europe, qu'on a vraiment bien beaucoup de difficultés à saisir cette hétérogénéité. Et pour moi, il y a effectivement, donc, d'une part, comme toujours, surtout dans des économies de marché, etc., il y a des oublis, il y a des perdants, etc. Mais d'autre part, ce qui est vraiment frappant, c'est le fait qu'il y a des façons dans lesquelles les marginaux, si on peut dire comme ça, effectivement, peuvent gagner quelque chose parce que, à travers de la culture et à travers, disons, de la vie quotidienne. Prenez par exemple le cas, pour moi c'est absolument fascinant et je n'ai pas encore vraiment saisi la signification du gay marriage aux États-Unis. Ça, c'est quelque chose que personne, mais vraiment personne, parmi les politologues, les gens qui suivent les sondages, etc., n'aurait jamais, mais jamais prévu. Il y a même 5 ans, pas seulement il y a 10 ans, 20 ans, etc., que c'était quelque chose comme cela, un mouvement qui effectivement a transformé tout le paysage et que effectivement même les ultra-conservateurs admettent qu'ils ont effectivement perdu cela. Ça, c'est quelque chose qui s'est passé à la fois dans la vie quotidienne des gens, dans la culture et surtout dans les représentations culturelles, mais également dans une sorte de politique qui était effectivement locale, qui n'était pas quelque chose au niveau national. Et pour moi, c'est fascinant de voir comme les acteurs politiques se rouent après cela. Ils ont dû continuellement, comme par exemple Obama, vous vous souvenez, il a dit qu'il a progressé, je crois que c'était son mot, etc. Et pour moi, c'est quelque chose qui est une des rares choses qui me donne un peu d'espoir, parce que dans ce cas-là, chaque fois qu'on pense qu'on avait bien cerné le paysage culturel et politique américain, on voit qu'il y a des coins ici et là où il y a toujours des surprises.
Donc des évolutions politiques et de société qui peut-être nous échappent un peu vu de loin ou vu d'Europe, auxquelles on ne pense pas forcément. Vous évoquez les partis et les milieux conservateurs, parfois très conservateurs. Ces dernières années, et notamment le mandat d'Obama, ont vu l'émergence quand même d'un monde politique pas simplement conservateur, mais ultra-conservateur et beaucoup dans l'affrontement avec notamment le Tea Party. Là, on est quand même dans une... En tout cas, on a l'image d'un pays très clivé, très, très désuni. Je ne sais pas si c'est votre sentiment, Patrick Vincent, si vous voulez réagir, je vous vois...
Je voulais peut-être... Je vais répondre à votre question, mais je vais essayer aussi de répondre ou de lier cette question avec ce que j'ai entendu avant. D'abord... Je trouve que ces phénomènes de société comme le gay marriage, le mariage homosexuel ou encore la question de l'avortement, évidemment ce sont des choses importantes, mais qui cachent vraiment ce qui est plus important aux États-Unis, c'est l'inégalité sociale. Et donc on parle beaucoup des progrès, par exemple, du gay marriage, mais on oublie que la classe moyenne et surtout la working class, la classe ouvrière, a connu des revers cinglantes depuis 30 ans et que c'est beaucoup appauvri. Et on en parle, mais on en parle trop peu. On en parle dans les journaux libéraux, par exemple, ce qu'on appelle libéral aux États-Unis, le New York Times. Mais toute la presse de droite, par exemple, ignore complètement ce problème. Pour eux, le problème aux États-Unis est culturel, il n'est pas économique. C'est un problème. Donc, pour eux, le problème, c'est que les homosexuels se marient. C'est qu'il y a trop d'étrangers qui viennent aux États-Unis. Ce n'est pas qu'on paye les gens 8 dollars de l'heure pour travailler. Ce sont des salaires de misère. Dans le New York Times de dimanche dernier, il y avait une dame avec une image disant « Sears stole my American dream ». Elle ne peut pas vivre de son salaire, et c'est aussi un phénomène qu'on a en Europe aujourd'hui. Donc, je crois qu'il faut se méfier quand même de cette idée de progrès. Oui, il y a du progrès aux États-Unis, mais c'est un progrès qui est très aléatoire, à mon avis, et ce n'est pas ce qui compte le plus. Oui, et juste pour rattacher ce point à la question de la culture, à mon avis, ce qu'il y a eu de plus intéressant en culture populaire aux États-Unis ces 10 dernières années, ce sont les séries de télévision. Et vous les connaissez tous. Je pense que Breaking Bad est probablement la production la culturelle la plus impressionnante qu'il y ait eu, beaucoup plus impressionnante que ce qui se produit en littérature, par exemple. Et qu'est-ce que c'est ? C'est l'histoire d'un homme qui ne peut pas payer ses factures de santé, donc il doit produire de la méthamphétamine, il devient vendeur de drogue. Donc c'est une satire absolue du mythe américain, avec un petit peu, avec aussi à côté le mythe de la frontière, la violence qui va avec. Donc la culture adresse les problèmes sociétaires de façon très habile, à mon avis, surtout à la télévision.
Alors, on reviendra peut-être à la culture tout à l'heure, parce que je pense qu'il y a effectivement beaucoup, beaucoup de choses à dire sur cette notion de rêve américain dans le champ culturel. David Sylvain, vous vouliez peut-être réagir à ce constat.
Je voulais dire, bien sûr, il y a des inégalités absolument flagrantes aux États-Unis, comme par ailleurs ici en Europe également. Si on lit, par exemple, le bouquin récent de Piketty, etc., c'est absolument frappant. Mais pour moi, ce qui est vraiment intéressant à ce propos-là, c'est qu'il y a deux choses. Donc, d'une part, il y a une reconnaissance même parmi les groupes conservateurs les plus, disons, primitifs aux États-Unis que c'est un problème qui est grandissant, etc. Et ça, on a vu des gens, même bien sûr des gens qui sont hypocrites, comme Paul Ryan, etc., qui disent qu'il faut vraiment attaquer cela. Évidemment, leurs solutions sont ridicules en quelque sorte, mais ça, c'est quelque chose déjà important. Deuxièmement, je dirais que, encore une fois, j'insiste sur le fait que c'est un pays absolument immense. Et donc, on a eu, pendant, je crois, ces dernières 2 ans à peu près, des grèves pour les fast-food workers et dans d'autres secteurs qui sont parmi les plus mal payés. Et ça, c'est quelque chose que de temps en temps arrive à faire la une du New York Times, mais plus souvent, c'est presque ignoré complètement. Et quand même, il y a des actions qui sont ponctuelles et on a des projets de loi qui sont votés dans pas mal d'États, pas mal de villes, etc. Donc, pour moi, je crois que effectivement, la leçon, en voyant que encore une fois, et ça, on peut remonter jusqu'au 19e siècle avec tous les franges conservateurs, tous les groupes hystériques, etc. Ça, c'est une très vieille histoire aux États-Unis. Mais pour moi, c'est intéressant le fait que, quand même, au-dessous du niveau national, il y a toutes sortes de choses vraiment intéressantes. Et à ce moment-là, je crois également, pour moi, donc le terrain culturel, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Le fait que, par exemple, pour les émissions de télévision ou pour certains types, par exemple, de la musique populaire, etc., que c'est quelque chose que les élites ne connaissent pas bien ou pas du tout, qui n'est jamais couvert, par exemple, dans le New York Times, surtout dans le Wall Street Journal, etc., mais qui est quand même, c'est important pour la vie quotidienne des gens. Pour moi, c'est quelque chose qui indique encore une fois que la politique ne passe pas forcément au niveau national, mais disons à toutes sortes de coins.
Donc pas uniquement par le politique, mais aussi par les usages culturels, les pratiques sociales.
Ou la micropolitique, si vous voulez.
Ou la micropolitique, effectivement, c'est peut-être quelque chose qu'on perçoit, vous évoquiez les séries télévisées, Patrick Vincent, Marc Attala, c'est peut-être quelque chose aussi qu'on perçoit dans différents champs culturels, cette micropolitique.
Bon, heureusement que dans le champ de la création, déjà, on n'a pas d'uniformité. Donc oui, invariablement, mais de nouveau, c'est tellement difficile à évaluer tant la production est grande, en fait. Les séries TV, c'est encore particulier parce que ça passe par un certain type de calibrage pour un public qui doit être le plus grand possible, autant américain qu'européen. C'est aussi des phénomènes assez particuliers où vous avez un test sur une saison, si ça marche pas, on arrête, on fait quelque chose d'autre. C'est pour ça que souvent, il y a des séries qui s'arrêtent. C'est juste parce que ça marche pas. C'est pas une question. Je trouve
des
intéressant.
Questions économiques alors. Oui.
Voilà. Ce qui devient aussi assez intéressant, c'est qu'on commence à avoir une production à l'intérieur même de champs qui auparavant étaient grand public. On commence à avoir une production qui devient critique de ce même champ lui-même. C'est-à-dire l'espèce de... Pardon, bonsoir.
On accueille donc Urs Tiswiller qui a finalement eu son train, bienvenue, bonsoir, et qui est donc qui était ambassadeur à Washington de Suisse. Mais vous êtes parmi nous et voilà, nous étions en train d'évoquer ces années Obama que vous avez vécues et je vous inviterai peut-être dans quelques minutes à nous faire part de votre expérience privilégiée d'ambassadeur de Suisse à Washington justement pendant cette période-là. Marc Attala, on va revenir au champ culturel et ces évolutions que vous évoquiez à l'instant.
Donc ouais, je vais essayer de, donc ce que je voulais dire, c'était je crois que je pense que statistiquement, ça serait assez intéressant de regarder, par exemple en Suisse, le nombre de facultés dans les universités suisses qui étudient la production américaine qu'on appellerait populaire. Moi, j'enseigne à l'Université de Lausanne la littérature française. Je crois que je suis la seule personne en Suisse romande qui enseigne d'autres littératures que celles que vous avez tous apprises à l'école de Balzac à Solers, disons. Or, il s'avère que de manière assez particulière, ce qui n'était pas le cas avant les années 80, les jeunesses européennes, et quand je parle de jeunesse, c'est pas jusqu'à 18 ans, c'est beaucoup plus tard, vous n'avez qu'à aller voir un film au cinéma pour vous rendre bien compte, sont imprégnées d'esthétique américaine, mais sur le tard, ça veut dire en gros ce qui est sorti depuis les années 80, depuis Star Wars principalement, jusqu'à aujourd'hui. Or, il s'avère que c'est déjà plus de 50 à 60 ans d'histoire culturelle qui est rebrassée par ces grands films, ces séries TV, on n'a qu'à penser à Game of Thrones, alors que Martin est un écrivain des années 80, 70-80, c'est pas quelqu'un qui est récent. Et qui viennent en fait transmettre un message, puisque tout discours fictionnel est forcément idéologique au sens neutre du terme, qui imprègne en fait l'imaginaire européen. D'ailleurs, j'aurais trouvé intéressant que le rêve américain sur le flyer s'appelle le rêve américain, du rêve américain au rêve européen, parce que ce serait assez intéressant de voir dans quelle mesure la différence est si notable. En tout cas, en termes fictionnels, la question mérite d'être posée. Et je pense que l'évolution est peut-être là. On est dans une phase d'hybridation immense entre des esthétiques, d'une part, nationales, entre guillemets, donc c'est-à-dire que ce qui se passe aux États-Unis dans la production culturelle elle-même est particulièrement différencié et hybride. Et puis après, il y a d'autres imaginaires. On n'a qu'à penser au nombre d'Européens qui vont travailler aux États-Unis dans l'industrie du comics, par exemple, et puis qui reviennent en Europe, fonder leur propre maison d'édition pour des questions économiques de droits d'auteur.
Je pense aux jeux vidéo, peut-être aussi.
Oui, et puis même un Suisse qui a fait ça. Il y a des Suisses qui sont allés dessiner des super-héros à Spider-Man aux États-Unis pour Marvel, puis qui sont revenus en Suisse, puis qui font Guillaume Tell en super-héros. Vous voyez. Donc on commence à avoir une hybridation esthétique qui n'est plus seulement de « je contemple Star Wars » et je me dis pourquoi est-ce que la Suisse n'a jamais produit Star Wars, pour des raisons évidentes. Mais en même temps, aujourd'hui, on commence à avoir des Suisses, et on en a de plus en plus, qui vont travailler dans les studios hollywoodiens, puis après qui reviennent en Suisse pour des questions de droits d'auteur, puisque le problème aux États-Unis, comme vous le savez, c'est que la création n'appartient pas souvent aux créateurs, elle appartient aux par exemple pour un éditeur, aux éditeurs et pas tellement aux créateurs. Et donc, en fait, vous avez aussi un format économique qui permet ces hybridations, voire même qui les encourage. Et puis après, bah, évidemment, qui va se refléter ou qui va venir imprégner l'esprit européen. Et c'est peut-être là, moi je verrais plutôt les innovations culturelles en termes structurels et pas tellement en termes thématiques. Déjà parce que ça n'existe pas dans l'histoire de la culture. Alors prenons l'histoire de la littérature, vous n'avez jamais d'innovation. Au sens strict, l'innovation est toujours la capacité à remotiver des choses, à leur donner des nouveaux aspects, des nouveaux signifiants, etc. etc. Donc la création ex nihilo est une vue de l'esprit peut-être un peu judéo-chrétienne. Fondamentalement, elle est toujours une manière de ressasser dans un sens positif des motifs préexistants. Et vous prenez tous les grands motifs américains qui ont été disséminés par la science-fiction, bah, vous les retrouvez auparavant, mais ils sont remotivés. Ce qui est peut-être étonnant, c'est la capacité que nous avons, Américains ou Européens, parfois de lire ces motifs au premier degré, ce qu'on appellerait du donquichottisme ou du bovarisme. C'est peut-être plus ça qui est intriguant. Donc vous voyez, l'innovation, elle est plutôt structurelle dans l'hybridation, à mon avis, plus que dans le traitement même du motif, finalement, qui est, à mon avis, relativement classique, comme c'est souvent le cas.
Donc pas de grands changements politiques, pas de grands changements de récit, j'allais dire, mais finalement des petits changements plus fins et peut-être plus individuels, plus du côté du vécu ou des pratiques politiques et sociales et culturelles. Je me tourne vers vous, Urs Tiswiller, qui venait nous rejoindre et qui étiez témoin privilégié de ce moment de bascule, en tout cas très, très fort symboliquement, entre la présidence de George Bush, fils, et celle de Barack Obama. Vous étiez donc à l'ambassade suisse de Washington entre 2006 et 2010, si mes informations sont exactes. À titre professionnel, en tant que représentant de la Confédération à Washington, et puis aussi à titre personnel, qu'est-ce qui vous a marqué de ce moment de bascule? Est-ce que vous l'avez vécu comme un moment de bascule, comme un moment de changement?
D'abord encore, désolé pour mon retard, les CFF. Pour répondre à votre question, c'était évidemment perçu par l'Américain moyen comme une révolution que, pour la première fois, un noir est arrivé à la présidence américaine. Et puis le changement n'aurait pas pu être plus grand qu'entre George W. Bush et Obama, étant donné que M. Bush était à la plus basse de pourcentage de tout le monde, de tous les présidents américains, et Obama venait comme un personnage avec un espoir fou, avec un slogan « Let's do it, yes we can », et évidemment ça a créé un énorme espoir. Et puis maintenant, 6 ans plus tard, M. Obama est presque aussi bas dans le pourcentage que M. Bush était à l'époque. Et ça, bien sûr, des raisons, peut-être on arrivera encore à en discuter. Mais c'était pour moi une expérience fantastique de voir ce changement et même de vivre cette journée d'inauguration de M. Obama avec 1 million de personnes à Washington. Il faisait moins 15 degrés, si je me rappelle bien. Et cet énorme espoir du changement. Et bien sûr, ça, c'est un des points forts des États-Unis, l'optimisme. Et c'est peut-être la plus grande différence entre nous, entre la Suisse et les États-Unis. Chez les Américains, le verre est toujours à moitié plein, tandis que nous avons tendance à voir plutôt le verre à moitié vide. Et voilà ça, l'optimisme, le dynamisme. Et les derniers mois, les 2 dernières années l'ont montré une fois de plus. On croyait les États-Unis presque à bas sur son pouvoir économique. Et voilà, c'est les premiers qui se sont sortis de cette crise financière et économique.
Donc un bilan économique plutôt positif. Vous évoquiez par contre la déception, en tout cas la déception de l'opinion ou d'une partie de l'opinion aujourd'hui par rapport aux espoirs qu'avait suscité Barack Obama. Comment est-ce qu'on peut l'expliquer? Quels sont les principaux ingrédients de cette déception ou de cette semi-déception, selon vous?
Bon, on disait que M. Obama n'avait pas assez de courage de faire ce qu'il avait annoncé de faire, citons Guantanamo, citons la réforme du système de santé et plein d'autres. Mais là, il faut tout de suite dire qu'il est victime aussi du système américain, parce que le Parlement américain, et cette fois-ci, c'est aussi grave que c'était sous Clinton et dans la dernière période de Bush, il y a les deux chambres contre lui. Ça lui permet peut-être de faire des choses qu'il n'aurait pas pu faire s'il y avait encore une majorité dans une des deux chambres. Mais quand même, c'est le système américain qui l'a freiné. Je pense que M. Obama va entrer dans l'histoire des présidents beaucoup mieux qu'il est perçu maintenant. Parce que non seulement il a réussi à faire plusieurs choses, le chômage est au plus bas depuis 10 ans, on est à 5,6 si je m'abuse. L'économie va plutôt fort, les salaires minimums ont augmenté. Néanmoins, l'Américain moyen, une dernière enquête de New York Times a montré que seulement, et ça il faut aussi relativiser, seulement 64% des Américains croient encore au rêve américain. Tandis qu'il y a 20 ans, c'était encore toujours plus que 80% qui croyaient encore à ce rêve américain.
Je ne sais pas si c'est un sentiment, une analyse que vous partagez ou sur lequel vous souhaitez réagir. N'hésitez pas à lever la main ou à, quand vous voulez intervenir ou rebondir sur des propos.
Moi, je dirais comme politologue que cette descente dans les sondages, c'est quelque chose qui arrive à presque tout président. Et par ailleurs, avec presque tout homme politique, tout acteur politique dans tous les pays. Hein. Ce n'est pas quelque chose spécifiquement américain. On a même des modèles mathématiques qui montrent que chaque mois, que le premier ministre, le président, etc., accumule toutes les critiques, etc., et qui n'est pas très souvent, pas jamais, mais pas très souvent crédité, même avec ses partisans, avec ses réussites. Donc c'est classique. Bien sûr, Obama est impopulaire, Bush était impopulaire, Clinton était tellement impopulaire qu'on a même essayé de le destituer, etc. Et on peut remonter. Par exemple, je peux vous donner des citations, des discours des républicains contre Franklin Roosevelt, qui est traité comme quelqu'un qui était un traître, etc. On peut remonter donc presque toujours. Donc pour moi, le fait de descendre dans les sondages n'est pas en soi tellement important. Je crois que la chose la plus importante, c'est donc d'une part que tous les gens qui nourrissent donc de la haine et du venime contre le président et surtout évidemment contre ce président-ci, maintenant ils sont appuyés dans une sorte de chambre d'écho avec l'avènement de Fox News, donc des médias grassement payés par les milieux conservateurs. Ça, c'est quelque chose de assez différent que dans le passé. Et deuxièmement, on a précisément pour cela donc une sorte de guerre d'usure pour les opposants. Donc, on a cité le sénateur McConnell, je crois que c'était la semaine même qu'Obama a été inauguré pour la première fois, en disant qu'on s'opposerait systématiquement sur chaque projet de loi avec lui, et qu'il n'y aurait pas même jamais un seul compromis. Et ça, c'est quand même quelque chose qui marque une sorte de rupture avec le style des membres du Congrès américain. Donc pour moi, donc d'une part, il n'y a pas quelque chose tellement surprenant, mais d'autre part, il y a donc, disons, une sorte de radicalisation. Et pour moi, c'est quelque chose qui est vraiment frappant, le fait que maintenant, les opinions qui, dans le passé, étaient considérées comme assez marginales, etc., deviennent quelque chose qui sont, disons, effectivement reproduits à chaque 20 minutes à peu près pour des cycles de 24 heures. Je ne sais pas si vous avez jamais regardé Fox News, mais la prochaine fois que vous trouvez, disons, coincé dans un aéroport américain, c'est toxique, mais c'est vraiment comme de pouvoir regarder quelque chose dans le roman d'Orwell de 1984, parce qu'on a des talking points. qui sont répétées peut-être une dizaine de fois chaque heure, heure après heure après heure. Et ça, on n'a jamais vu. Et pour moi, c'est quelque chose que du point de vue donc, des médias, etc., ça, c'est vraiment différent que dans le passé. Et ça permet, avec la combinaison, comme j'ai dit, comme je disais tout à l'heure, donc avec cette rhétorique limitée américaine, cette vocabulaire limité, donc de taxer des gens comme Obama comme précisément des extraterrestres, des musulmans, des gens qui sont donc anti-américains. Et pour moi, c'est quelque chose, c'est une combinaison de choses-là, et ça, je trouve vraiment très dangereux.
Je ne sais pas si quelqu'un à la table ou dans le public, d'ailleurs, souhaite réagir sur cette question des médias, ces gros médias conservateurs qui ont émergé, disons, de façon plus forte ces dernières années.
Peut-être juste pour insister que ces médias dont David Sullivan parle, par exemple Fox News, sont les médias les plus regardés dans ce pays. Nous citons tous les trois le New York Times. Une petite minorité du pays, sur la côte est et sur la côte ouest, peut-être à Chicago aussi, lit le New York Times. Dans le reste du pays, on considère que le New York Times est socialiste, voire même communiste. Donc, les Américains d'aujourd'hui s'abreuvent d'informations complètement faussées, pas du tout objectives, voire même dangereuses. Et comme dit David Sullivan, c'est très grave, ça fait très très peur.
Je crois que Ursis Wilher et Marc Attala, d'ailleurs, tous les deux, vous souhaitez également réagir. Alors...
Oui, mais moi, je fais une petite comme ça pour ceux que ça intéresse, parce qu'évidemment, par rapport au champ culturel, c'est un peu plus compliqué de se positionner sur des questions là, de cet ordre-là. Mais je trouve intéressant les deux choses que viennent d'énoncer les gens autour de cette table, c'est qu'en fait, la critique des médias, ou plutôt les médias tels qu'ils s'expriment aujourd'hui, ou alors l'idée de Big Brother, cette idée un peu d'être en permanence, on répète les choses, etc. Mais il faut penser à deux bandes dessinées qui sont sorties la même année, en 86. V pour Vendetta, qui a été faite en film, mais la BD d'Alan Moore est quand même relativement intéressante. Et puis une autre qui est moins connue, qui s'appelle Dark Knight, The Dark Knight de Frank Miller, qui est une critique radicale des médias américains. Et là, je vous parle d'il y a, donc, en l'occurrence, 30 ans. Hein. Donc, je me demande dans quelle mesure, mais ça, les personnes qui sont spécialistes du monde américain seraient peut-être plus à même d'y répondre que moi. Je me demande dans quelle mesure c'est pas une construction de nous, Européens, par rapport aux États-Unis, d'imaginer que des changements brutaux se sont passés, par exemple, sur la question médiatique, sur la question des imaginaires, plus par méconnaissance de ce qui s'est passé jusqu'aux années, fin des années 80. En gros, jusqu'au moment où les grands médias permettent de diffuser ces esthétiques sur les écrans européens ou dans les librairies européennes, essayer de trouver de la science-fiction américaine en Suisse dans les 70, c'est pas facile, par exemple. Et je me demande dans quelle mesure est-ce qu'on n'a pas un peu du retard par rapport à ça, où une critique s'est déjà construite depuis des années et des années. La fiction, on sait depuis Platon, est toujours quelque chose qui est proche et lointain de l'État, proche parce qu'elle peut commencer à être subversive, lointaine parce qu'on a vite tendance à l'instrumentaliser comme étant de la nourriture pour le peuple. Et je trouve intéressant quand on parle de Fox News, qui semble être beaucoup plus de la nourriture pour le peuple que, par exemple, justement, les écrits d'Alan Moore, qui critiquent de manière relativement virulente cette espèce de société qui génère, sur la base d'un confort et d'un mythe, qu'on pourrait appeler le mythe américain, qui génère des attentes complètement erronées ou simulées par rapport à ce qui est possible pour les individus. Donc, vous voyez ce que je veux dire, c'est, j'ai l'impression qu'on perçoit ça avec un regard relativement peu connaisseur, alors qu'il me semble que moi, dans les champs que je connais, ça fait pas mal d'années, et là, quand je dis 30 ans, c'est au bas mot 30 ans, qu'on critique de manière assez puissante l'économie américaine, la politique américaine, voire les médias évidemment américains, mais c'est juste que ces choses-là, qui sait aujourd'hui qui va aller dans une librairie acheter V pour Vendetta pour réfléchir sur la manière dont Alan Moore critique les médias américains. Oui, je pense qu'il n'y a personne qui le fait.
Pas complètement nouveau, alors, mais me semble-t-il, vous allez me dire si je me trompe, les Américains ou certains Américains eux-mêmes ont pas mal dénoncé l'émergence et le poids dans l'opinion de Fox News ces dernières années. C'était quelque chose que eux-mêmes voyaient comme une évolution, disons, qui allait crescendo ou pas du tout.
Oui, je voulais ajouter, en parallèle avec la montée de Fox News, et surtout de certaines radios locales qui ont une langue de haine incroyable, ça montre aussi une montée d'intolérance que je constate ou que beaucoup d'Américains libéraux constatent.
Donc il y a une évolution.
Une montée d'intolérance auprès des Américains vis-à-vis des immigrants. Ils étaient tous immigrants, mais maintenant on se bat contre l'immigration. On parle même de construire un mur vis-à-vis du Mexique. Et ça, c'est quand même un des grands changements des dernières années aux États-Unis. Et puis si on parle des grandes chaînes américaines, lors de la crise bancaire entre la Suisse et les États-Unis, secret bancaire, évasion fiscale, KUBS, le public suisse avait l'impression que les États-Unis veulent la peau de la Suisse. En fait, c'était un problème d'une toute petite minorité. Et puis si le professeur parle de New York Times et de Washington Post, c'est seulement ces trois médias, à quelques petites exceptions près, qui ont parlé du cas UBS. Et dans aucune des grandes chaînes, ni Fox News, ni CNN, ni ABC, ni NBC, on parlait une seule fois de la Suisse. Seulement pour vous montrer à quel point la perception d'un problème peut être différente selon la taille d'abord du pays et les problèmes perçus dans un pays respectif, et savoir aussi avec les médias.
Je voulais juste ajouter un point, ce qui relativise un tout petit peu ce que vous venez de dire à propos donc des médias. Pour moi, c'est frappant. Si on regarde le taux de vision de certaines chaînes de télévision, c'est en baisse presque continuelle depuis les années 70. Okay? C'est année après année, il y a moins de monde qui regarde. Fox News, c'est vrai, Fox News comme chaîne d'émissions de journalisme d'actualité, journalisme entre guillemets, c'est plus regardé que toutes les autres chaînes, mais ça ne veut pas dire grand-chose. Et en plus, l'âge moyen des gens qui le regardent, c'est bien plus élevé. Donc, effectivement, on a encore une fois une éparpillon parmi les membres des médias américains, parce qu'il y a toutes sortes de personnes, surtout les gens qui ont moins de 40 ans ou moins de 35 ans, qui ne regardent jamais la télévision, qui ne même possèdent pas une télévision. Et donc, pour eux, c'est inconcevable d'être obligé de regarder soit le journal de 20 heures ou quelque chose comme cela, soit de regarder et de lire un journal classique. Soit ils regardent des émissions telles que le Daily Show, etc., soit qu'ils apprennent des choses par les social media, etc. Et par exemple, je peux vous donner l'exemple, j'ai trois fils, personne parmi les trois ne regarde jamais le journal. Il me voit toujours comme quelqu'un un peu bizarre parce que je continue à lire les journaux chaque jour, etc. Et eux, quand même, ils sont informés. Je n'ai jamais compris comment ils sont informés, mais ils sont informés. Et je crois que leurs copains, leurs amis font exactement la même chose. Donc, c'est quelque chose comme ça. Et effectivement, toute la chaîne, tout le paysage audiovisuel des États-Unis, c'est en train de basculer. Et une dernière chose, en ce qui concerne, par exemple, les créations telles que The Wire, telles que The Sopranos, les choses comme ça, sont pour les toutes petites audiences, de peut-être 1 million, 2 millions de personnes. Ce n'est pas les grandes chaînes comme dans le passé. Ils vivent parce que pour acheter un abonnement à la télévision câblée, il faut dépenser, je ne sais pas, $50 par mois, $60, peut-être $100 par mois, et on n'a pas le choix, on ne peut pas le séparer. Et donc, les gens qui voudraient, par exemple, regarder les sports, devraient effectivement payer une subvention à peine déguisée pour les chaînes telles que HBO, Stars, etc. Et ça, c'est vraiment intéressant. C'est effectivement une taxe pour appuyer certains types de créateurs.
Il y a un sujet qu'on a fait qu'esquisser jusqu'ici, on l'a frôlé, et peut-être certains d'entre vous dans le public y ont pensé ou se sont dit, mais alors quand est-ce qu'on en parle? Un sujet qui est pourtant central quand on évoque les espoirs peut-être déçus ou en partie déçus du rêve américain et puis de la présidence d'Obama, c'est bien sûr la question raciale qui est revenue médiatiquement ces derniers mois, ces dernières semaines, avec ces affaires de bavures policières, de morts de jeunes noirs, et puis les mouvements sociopolitiques qui ont suivi ces dernières semaines, des mouvements importants. Urstis Wheeler, il y a les oubliés de l'Amérique Obama, cet idéal d'une Amérique post-raciale, hein, c'est ce que mettait en avant beaucoup Barack Obama au moment de sa campagne de 2008, cet idéal d'une justice, d'une égalité raciale a été déçu.
Sur le papier, en effet, tout est réglé et il n'y a aucun problème entre les races aux États-Unis. C'est considéré comme politiquement incorrect, de parler de ce problème-là. Mais il existe, en effet. Et quand j'étais en poste, ou encore au travail, j'aurais jamais pu dire ce que je vais dire maintenant. Parce que c'était pas considéré comme politiquement correct. Mais les minorités, aussi bien noires que latinos, sont assez discriminées encore à ce jour. Bon, on peut dire, c'est vrai, c'est seulement 50 ans qu'un noir ne pouvait pas prendre le bus ou le tram à Washington, D.C. Il n'avait pas droit à aller dans une piscine publique où c'était séparé, etc. C'est seulement 50 ans, alors il faut donner le temps au temps, ça prendra du temps. Mais le fait est que la minorité noire, et je parle maintenant de l'expérience washingtonienne, parce qu'à Washingtonville, 75% à peu près de la population est noire. Elle est de plus en plus encore poussée à l'extrême de la société, non seulement parce qu'elle est moins bien éduquée, et là, il y a un problème de l'école publique, qu'on pourrait peut-être en parler plus tard, mais il y a aussi une immigration forte qui est devenue une concurrence forte pour la minorité noire. Les latinos, ils en veulent. Ils les poussent encore plus au bout de la chaîne sociale, la minorité noire. Et si vous allez dans un district important de Washington à un événement d'une certaine importance, le noir est malheureusement seulement qui garde la porte. Et puis il y en a deux ou trois qui sont à l'intérieur et qui participent à la discussion. Et ça, c'est un fait qu'aux États-Unis, on ne veut pas en parler, ou on en parle, mais pas dans le public, parce qu'on dit que ce n'est plus une vérité, ou ce n'est plus un fait, mais la vérité est que c'est toujours un fait que les minorités, surtout noires, sont assez discriminées.
Je ne sais pas si quelqu'un veut revenir.
J'aimerais bien écouter mes autres, et surtout le collègue américain, quelle est sa position là-dessus.
Je ne sais pas si quelqu'un veut revenir sur cette question raciale, effectivement.
Je ne veux pas vous embêter avec Tocqueville, mais j'ai relu la démocratie en Amérique pour cette occasion. Et Tocqueville, à la fin de son magnifique exposé sur la démocratie, sur l'égalité, et sur ce qui fait qu'on soit américain, pose la question de la race. Et il dit quelque chose qui fait très peur, mais qui est probablement assez juste, peut-être. Il dit qu'on ne pourra jamais avoir une démocratie en Amérique à moins que les Noirs soient ou bien complètement intégrés ou bien qu'ils partent. Donc on ne peut pas avoir quelque chose entre les deux. Donc ça revient à l'idée d'une république homogène, comme on voit peut-être aussi en France. Et c'est, qui sait, peut-être que de Tocqueville avait raison, on ne sait pas. Mais en tout cas, le problème des Noirs ou des Afro-Américains, comme on les appelle aux États-Unis, est toujours aussi saillant que jamais. 30% des Noirs sont au chômage. La moitié des prisonniers aux États-Unis sont noirs, des hommes noirs. il y a une violence terrible encore dans les banlieues. J'ai beaucoup pensé à la situation des Noirs aux États-Unis en voyant ce qui s'est passé à Paris. Il y a une rage encore parmi les jeunes hommes noirs de la cité qui est très semblable à la rage qu'on a vue chez ces jeunes musulmans. Et ça serait intéressant de comparer les deux expériences.
Je ne sais pas si quelqu'un veut réagir sur cette question ou quelqu'un dans le public, bien sûr. Alors, on a un micro qui devrait fonctionner, je pense. Alors, il y avait monsieur et puis...
Merci beaucoup. Quelqu'un d'autre. Alors, excusez-moi.
On va vous passer la parole tour à tour.
Non, je voulais revenir peut-être sur deux aspects. Un aspect qui a été peu évoqué, c'est le côté économique des choses. Professeur Vincent a mentionné à quel point ça pouvait être difficile. Pour les réalisations d'Obama, je voudrais quand même mentionner ce qui n'a pas été fait, qu'il est arrivé juste après la crise économique de 2008, ce qui est quand même très important. Alors, l'ambassadeur Tsvilaire mentionnait que ça remarche bien. Il faudrait quand même juste mentionner à quelles conditions. C'est au déversement de centaines de milliards de dollars pour un pays qui peut les faire et s'endetter avec sa propre monnaie et créer sa propre monnaie qu'on appelle la monnaie de réserve. C'est quand même quelques bémols à dire. Maintenant, évidemment, on nous dit que la société américaine, ça va aussi dans le sens de moi, je ne suis pas, je connais pas les États-Unis, hein, donc je suis là pour être contrarié. Néanmoins, le SWIG américain aurait été monté, mais on nous dit aussi, et des experts sérieux, que les différences de classe et l'accroissement entre les riches et les pauvres est énorme et constant et plutôt en croissance. Et pour l'anecdote, par hasard, j'ai écouté une dame économiste française qui s'appelle Esther Duflo, sans le T au bout, mais qui est conseillère économique du président Obama pour les problèmes de développement. Donc elle est vraiment intégrée au système américain, peu importe, j'abrège. Elle disait sur le plateau de télévision américaine, en toute naïveté, je rentre maintenant à Paris, je vois tous les problèmes qui sont à la France, de la France et tout cela, et moi je m'en étonne. Je m'en étonne quand je vois ce que je vois aux États-Unis, c'est des gens qui doivent avoir 3 emplois pour tourner, où les familles se désagrègent parce que les pères qui travaillent la nuit, le jour et encore ne voient plus leur famille. Enfin, voilà un peu ce qu'elle disait. Donc je crois que c'est un élément dont il faut tenir compte et qui a été peut-être sous-évalué dans la présentation du rêve américain, parce que le rêve, il n'est vraiment pas pour tout le monde et cela explique un certain nombre de choses. Puis j'ai une deuxième chose qui n'a pas été évoqué, qui est plutôt de l'ordre culturel, mais pas forcément au sens culturel de M. Attala, mais les chiffres, je ne les ai plus en tête, mais les enquêtes portant sur le nombre, le pourcentage d'Américains qui, d'une part, il y a le Tea Party et cette réaction-là, mais il y a les autres dans la même mouvance, qui sont les évangélistes, ok, mais il y a surtout les créationnistes. Et ceux qui croient encore que le monde a été formé en 7 jours, etc., selon la Bible, sont une proportion dont j'oublie véritablement le chiffre, mais qui sont impressionnants. Et ça aussi, ça mériterait, pour des spécialistes comme vous, de nous expliquer comment on arrive à ce niveau d'obscurantisme.
Très brièvement, autant que possible, peut-être une petite réaction sur cette question des milieux religieux qui nous paraissent très exotiques vu d'Europe. Comment est-ce qu'on peut l'expliquer, si c'est possible, en quelques mots ?
Mais encore une fois, je ne sais pas, c'est vraiment pas une réponse, ok ? Mais quand même, on a vu aux États-Unis depuis le tout début du 19e siècle exactement le même type de phénomène. Là-bas, des groupes religieux qui sont considérés comme ayant des croyances, vraiment bizarres et peut-être très très primitives. Non, pas j'ai dit pas ça. Mais par exemple, si vous remontez, par exemple, pas forcément au 19e siècle, mais jusqu'aux années 20 du 20e siècle, donc avec le Scopes Trial, le procès Scopes, etc., on voit exactement le même type de choses. Ça, c'est quelque chose qui arrive, mais encore une fois, comme j'ai insisté, c'est un pays absolument immense. C'est vraiment très, très grand comme pays. Et il y a toutes sortes de gens qui, effectivement, qui y habitent. Mais pour l'autre, pour moi, c'est quelque chose qui est bien plus grave en quelque sorte. C'est-à-dire donc l'inégalité et surtout la stagnation donc des revenus du classe moyenne, etc. Pour moi, c'est quelque chose qui évidemment est structurel. On voit exactement les mêmes types de phénomènes partout, par exemple ici en Europe, mais également on voit encore une fois partout que on voit effectivement le démantèlement de l'État-providence, en quelque sorte. Bien sûr, l'État-providence aux États-Unis était moins construit qu'ici en Europe, mais quand même, ça a été construit. Ça a commencé dans les années 30, avec Roosevelt, ça a continué avec Lyndon Johnson, ça vient d'être continué encore avec Obama, avec pour la santé, etc. Mais en même temps, on a vu, par exemple, pour l'AVS américain, la Social Security, ça a été effectivement déjà beaucoup freiné dans les années 90 sous Clinton. Et on voit exactement le même type de choses si on remonte avec Reagan, etc. C'est vrai qu'on voit à peu près le même type de phénomène avec Labour en Grande-Bretagne, avec certains gouvernements en France, etc. Mais c'est quelque chose qui effectivement a laissé pour compte toute une portion de la population vraiment importante. Mais pour moi, ce n'est pas quelque chose qui est spécifiquement américain, c'est plus cruel là-bas. C'est plus cru, c'est augmenté là-bas, mais ce n'est pas spécifiquement américain, en contrariété avec ce que vous venez de dire, par exemple, pour d'autres choses.
Ourse Esvillard, je crois que vous vouliez réagir également.
Oui, pour les religions, en effet, ce qu'on sous-estime énormément en Europe et en Suisse en particulier, c'est le rôle des religions dans la vie quotidienne des Américains. Pour vous donner un exemple, seulement 4 sur tous les parlementaires américains ont publiquement déclaré qu'ils ne font pas partie d'une église et qu'ils ne vont pas tous les dimanches au culte. Parce qu'il y a certainement pas mal qui ne vont pas, mais ils n'ont pas le courage de le dire parce que, étant pas membre d'une église, mettent en danger la réélection, et ça fortement. Ça vous montre à quel point les religions sont importantes. Et la montée des évangéliques a bien sûr aussi été en parallèle avec l'intolérance, parce que c'est eux qui sont les plus intolérants. C'est eux le cœur du Tea Party. Alors, oui, je ne peux que souligner que l'importance des religions dans la vie quotidienne des États-Unis. Pour revenir à la question économique, oui, bien sûr, tout est relatif. Mais si on compare ce qu'a fait l'Europe et l'autre pour sortir de la crise, c'est quand même les États-Unis qui sont de nouveau la locomotive. Et si on a dit il y a quelques années que le dollar va diminuer ou presque disparaître par rapport à la monnaie chinoise et autres, le fait est que le dollar remonte et est de nouveau la monnaie de loin la plus importante. Mais tu as bien sûr raison que tout est relatif. Et puis il y a aussi un élément ou un exemple criant qui est qu'aux États-Unis, plus que 50% des salariés sont encore payés à l'heure. Inimaginable chez nous. Ça veut dire « hire and fire », ce qui est en même temps une force de l'économie américaine. Les salaires bas pour les immigrés et les 11 millions Mexicains illégaux, ils sont une masse de manœuvre pour l'économie qui font que l'économie est ce qu'elle est aux États-Unis. Mais il y a beaucoup de bémols, je suis d'accord avec toi.
Merci pour votre remarque et votre question. Il y avait une autre question, je crois, monsieur, qui vouliez intervenir, monsieur, au premier rang.
Beaucoup. Ok. J'aimerais vous poser une question concernant la démocratie aux États-Unis. Pendant longtemps, les Américains ont voulu nous faire croire qu'ils étaient les défenseurs de la démocratie. Vous vous rappelez sans doute. Et puis, il se fait que j'ai vécu pendant 3 ans aux États-Unis, de 1963 à 1966, puis j'y vais assez souvent parce que j'ai des amis là-bas. Et je pose chaque fois la question à mes amis et à ceux que je connais. Quelle est votre conception de la démocratie? Et je peux vous dire que leur réponse, c'est affligeant. Affligeant, ils ne savent tout simplement pas ce que c'est que la démocratie. Par exemple, un consensus politique, ils ne savent pas ce que c'est. Et ça m'étonne qu'un pays aussi grand, avec des gens qui sont très, très éveillés, des scientifiques qui sont hors pair, qui n'arrivent pas à trouver une réponse à cette question. Est-ce que vous pouvez m'en donner une ?
Alors, peut-être de la démocratie en Amérique, on revient à Tocqueville. Décidément, tout était déjà dans Tocqueville, Patrick Vincent. Cet aspect paradoxal, finalement, du rêve américain et de la démocratie américaine.
C'est-à-dire, ce qu'on réalise, c'est que chaque pays a une définition différente de ce que c'est que la démocratie. Vous avez évoqué le mot consensus. Selon Tocqueville, le consensus est un des fondements même de la démocratie en Amérique. Et c'est parce que tout le monde pense la même chose qu'on peut avoir cette démocratie. Pour un Américain, ce qui importe le plus, selon Tocqueville, ce n'est pas la liberté, c'est l'égalité. Et pour eux, l'égalité n'est pas l'égalité des biens, c'est l'égalité des conditions. C'est-à-dire que toute personne doit pouvoir accéder à la richesse. Donc ils doivent tous commencer au même niveau pour pouvoir ensuite pouvoir se démarquer. C'est très paradoxal. Ils veulent être les mêmes pour pouvoir être différents les uns des autres. Et je crois qu'en France, en tout cas, l'idée de démocratie est très différente, elle est beaucoup plus égalitaire. En Suisse, je pense qu'il y a quand même des ressemblances. L'idéal américain, évidemment, et je ne le dis pas en voulant le critiquer, c'est un paradis bourgeois. C'est un paradis de propriétaires ou de petits propriétaires. Est-ce que c'est la réalité? Non, ça c'est l'idéal qu'on met toujours en avant, qu'on essaye d'atteindre. À mon avis, notre idéal de démocratie en Suisse n'est pas si différent que celui qu'ils ont aux États-Unis. Mais c'est peut-être mon point de vue personnel.
Il y a peut-être des points communs, peut-être ça va vous faire écho en vous ou dans le public, entre certaines valeurs fondatrices des États-Unis et certaines valeurs fondatrices de la Suisse.
Oui, mais le monsieur m'a bien regardé en posant la question, alors je me sens presque obligé de dire quelques mots. C'est vrai que la démocratie directe, comme nous le connaissons ici, ce n'est pas la même démocratie aux États-Unis, sauf en Californie, peut-être je reviens. Mais je pense que les États-Unis sont profondément démocratiques, dans ce sens que one man, one vote, une personne, une voix. Et puis, ils peuvent élire un roi républicain tous les 4 ans. Mais après 8 ans, il va partir. C'est quand même très profondément démocratique. Et il y a 2 chambres qui fonctionnent avec la peine. Et le système électoral, c'est en effet un grand problème de mon point de vue. Et surtout, le fait que le Congrès doit être élu tous les 2 ans, ils sont à moitié, à 50% de leurs activités. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est eux-mêmes qui le disent, ou certains qui le disent. Ils ne font que du fundraising pendant 50% de leur temps, parce que pour financer la campagne électorale, ça demande énormément de moyens. Et en 2 ans, tu n'as pas le temps que de faire au moins une année pour chercher de l'argent. Et c'est un des points faibles pour moi du système électoral. Mais je suis convaincu néanmoins que les États-Unis sont profondément démocratiques. Et puis, il y a même une démocratie assez directe en Californie. Ils votent sur beaucoup de choses et quelquefois, ils vont nettement plus loin que nous, Suisses, sommes prêts à y aller, surtout dans le domaine écologique. C'est eux qui ont voté pour la première fois pour que les échappements, comment on dit en français,
Les émissions
ouais, de doivent de être CO2, limitées, ouais. etc. Qu'on doit changer les échappements à gaz, etc. Alors, il y a plusieurs choses qui sont profondément démocratiques.
Donc, c'est dommage que le schiste bitumineux ne se trouve pas en Californie pour la protection de l'environnement.
Mais tu mentionnes, je crois aussi, un sujet qu'on doit voir, c'est les dimensions. Hein. c'est un pays énorme. Je ne sais pas si vous avez parlé au début. C'est un pays énorme, et puis on ne peut pas mettre tout dans le même pot. C'est comme si on mettait l'Appenzell avec Genève.
Quelques mots sur le consensus. Vous avez parlé du consensus, donc ils ne connaissent pas ce mot bien.
Bon, ils arrivent à trouver un consensus entre les deux chambres et le président. Rarement, mais ça arrive. Ça arrive.
Ouais. Mais je voulais dire que pour moi, la notion de dire démocratie aux États-Unis, c'est quelque chose un peu aberrant. Pas parce qu'il n'y a pas des élections, il y en a énormément. Il y a des élections à presque chaque niveau du gouvernement, etc. Mais que plutôt que les États-Unis, et à contrario à ce qu'a pour la citation d'Obama, ce n'est pas un pays récent, pas un pays jeune. Du point de vue politique, du point de vue de l'âge des constitutions, c'est parmi les pays les plus vieux du monde, comme construction politique, évidemment pas comme culture forcément, des gens qui y habitent pendant des siècles, mais comme pays, ça veut dire donc avec une constitution dans cette forme-là écrite, etc., c'est parmi les plus vieux du monde. Et la constitution, il faut rappeler, a été écrite dans le 18e siècle, précisément avec toutes sortes de soupçons contre la démocratie. Donc, à l'origine, seulement le Chambre des représentants était élu démocratiquement par évidemment les hommes, pas les femmes, par les blancs, par les noirs, etc., pour les gens qui possédaient donc des terrains, etc. Et le Sénat était élu indirectement, également le président. Et c'est seulement avec l'avènement du président Jackson dans les années 30 du 19e siècle et avec toutes sortes d'autres changements, évidemment avec la guerre de sécession, etc., qu'au fur et à mesure, les États-Unis sont devenus plus démocratiques. C'est en quelque sorte un trajet semblable à ce qui a été tracé ici en Europe par d'autres pays. Donc l'idée, effectivement, c'était de créer une république, pas forcément une démocratie. On a une république et sur laquelle on a une démocratie. Et ça, c'est vraiment quelque chose de différent qu'ici, par exemple, en Suisse, si on remonte à la constitution ici.
On évoquait ces apparents paradoxes vu d'Europe, de la démocratie ou l'idéal démocratique des États-Unis. On a parlé évidemment des inégalités sociales, raciales. Marc Atala, est-ce que cet idéal, ce rêve américain qu'on présente comme une utopie, cet idéal utopique, est-ce que c'est pas aussi, on n'a pas tendance parfois à le voir comme une, ce qu'on appelle, je crois, une dystopie, hein, une anti-utopie? Il y a les deux parts, finalement.
Bon, déjà, je pense que c'est pas possible que ça soit une utopie, et donc c'est pas possible que ça soit une dystopie.
Ni l'un ni l'autre.
La dystopie suppose l'aliénation radicale de l'humain. L'utopie suppose l'épanouissement radical, qui est donc lui-même aussi une aliénation, donc c'est pas possible. Je pense peut-être à quelque chose qui me tenait assez à cœur par rapport à ce rêve américain. Je trouve intéressant qu'on soit arrivé sur la question de la démocratie, qui en Europe aussi d'ailleurs est un phénomène bourgeois, en passant. C'est le fait que ce qui a irrigué la modernité occidentale, puis ensuite évidemment les États-Unis, ou bien même en même temps les États-Unis, c'est aussi toutes ces réflexions de l'humanisme chrétien du 14e-15e siècle dans lesquelles l'utopie a été écrite. Les premières utopies sont écrites à partir de 1516, en l'occurrence l'utopie de Thomas More. Et on sait à quel point le 18e siècle est le siècle où il y a eu le plus d'utopies écrites, en termes littéraires, je parle bien sûr. Puis le 19e, il y a eu le plus d'utopies socialistes. Le nombre de gens qui voulaient fonder de communautés utopiques en Europe, aux États-Unis, dans le Nouveau Monde, au Canada, etc., etc., qui ont tous été des fiascos, heureusement. Je me demande dans quelle mesure, justement, là, on voit bien comment certains motifs, alors imaginaires ou philosophiques au départ, puis réintégrés dans les sphères politiques, sont en fait systématiquement en train d'être réemployés, réexploités, on pourrait dire, pour prendre des termes un peu techniques, remotivés. Hein, on reprend des choses et on les remotive. Et moi, j'ai l'impression que si on parle d'aspects dystopiques, c'est donc en gros des mondes totalitaires, pour faire simple.
Donc on n'en est quand même pas encore là, le constat est pas...
Sauf si vous prenez des positions un peu extrêmes à la Hannah Arendt, qui voyait dans la démocratie un totalitarisme soft. qui est en train de revenir un peu sur le marché avec ce qui s'est passé en France. Je pense que c'est bien qu'on en parle, mais c'est tabou. C'est la preuve que la démocratie est énormément tabou. C'est qu'en fait, dans les années 50-60, on conçoit le système capitaliste, en particulier avec un point de vue américain, mais qui est tout à fait appliqué en Europe, comme un totalitarisme soft, qui fait semblant en fait, de donner le pouvoir au peuple, de faire que les gens se situent de manière... Et c'est saint Thomas d'Aquin qui disait « La démocratie est faite pour les anges, il ne faut pas avoir d'intérêt personnel, sinon vous ne pouvez pas être démocratique. » L'idée qui tient des philosophes des Lumières, il faut être éclairé, il faut être cultivé. Autant aux États-Unis que ce qu'on voit apparaître en France, et je suis sûr qu'en Suisse c'est la même chose, que... Combien de gens comprennent un article de journal du premier coup? On sait qu'en Suisse, il y a fait des statistiques, 30% ne le comprenaient pas du premier coup. Comment avoir une voix éclairée? Donc, vous voyez, l'utopie, la démocratie est une utopie politique. Et c'est pour ça qu'elle est bourgeoise, d'ailleurs. Et donc, elle peut être qu'une dystopie politique. Alors, comme c'est jamais utopique, ça va. Mais il y a des tendances. Le rôle des médias, la centralisation de l'information sont des grands critères de dystopie. Il faut relire Nous autres de Zamiatine, 1984 d'Orwell, ou « Le meilleur des mondes » de Huxley, qui sont des textes assez intéressants, non pas pour dire ce qu'il va nous arriver, parce que ce n'est pas possible, ce sont des textes littéraires, mais plutôt de voir des tendances, des systèmes politiques qui cherchent, en fait, pour des questions tout à fait évidentes de contrôle de la population, de contrôle de direction et de productivité économique, de s'appuyer sur certains... Alors moi, je suis pas typiquement, et après je me tais, je suis profondément contre l'idée de ce que vous avez dit avant sur les créationnistes, dans le sens où... Je ne suis pas spécialement créationniste, même pas du tout. J'ai quand même l'impression qu'en Suisse, il y a de plus en plus de gens, et c'est le grand échec de la science moderne, qui est d'ailleurs contemporaine à l'utopie et qui est en train de se casser la gueule en termes de sciences théoriques. On voit bien en France les propagandes pour avoir des gens qui font des études scientifiques. La rationalité, qui est une des grandes utopies occidentales aussi, qui montre qu'en Suisse, il y a de plus en plus de gens qui vont chez... qui peuvent être tout à fait... On croit à la médecine quand ça nous guérit, mais après, il y a un peu des sciences parallèles, et puis on ne sait pas très bien à quoi on croit, puis on est gnostique, agnostique. J'ai l'impression que c'est le monopole idéologique qui est le plus dangereux, et c'est ce que nous apprend les dystopies. Et moi, je suis favorable à l'échange idéologique, à condition que cet échange ne conduise pas, par exemple, pour le cas des évangélistes, à une forme profonde ou radicale d'indifférence, d'intolérance, pardon. Or, il s'avère que je ne sais pas dans quelle mesure est-ce que le gouvernement, l'idéologie rationaliste occidentale n'est pas profondément intolérante. Et aller faire une étude à l'EPFL, moi j'enseigne un peu à l'EPFL, c'est ultra marrant. Les étudiants qui sont croyants se font complètement stigmatiser avec d'autres étudiants qui ne sont même pas capables de dire pourquoi il faut croire à la science, vous voyez, par exemple, alors que c'est une croyance. Et donc c'est là où ça ne peut pas être dystopique. Mais par contre, la dystopie peut nous enseigner une certaine forme de tolérance démocratique par rapport à ce genre de choses-là qui, à mon avis, sont présentes aux États-Unis, mais alors qu'on voit complètement en France avec ce qui s'est passé la semaine passée. Et puis là, en Suisse, c'est toujours tabou, mais on les voit alors encore plus aussi. C'est juste qu'on n'en parle pas. Et pour moi, ce rêve américain, c'est pour ça que c'est un peu le rêve européen. Notre imaginaire est complètement hybridé avec l'imaginaire américain, tout comme l'imaginaire américain est hybridé avec l'imaginaire européen. Il suffit de voir ce qui s'est écrit au 19e siècle, comme c'est emprunt d'utopie socialiste, en fait. Ça se construit aussi là-dessus, pas que là-dessus, mais en tout cas pour la partie culturelle ou imaginaire, j'ai l'impression que quelque chose émerge à ce moment-là. Et ce n'est pas étonnant que les grandes dystopies du XXe siècle, donc les grands textes totalitaires en termes de fiction, sont des textes américains, par exemple.
On a peu évoqué l'aspect politique extérieur. Il y aurait évidemment beaucoup, beaucoup de choses à dire, j'imagine, et je pense que vous auriez, nos intervenants et le public, beaucoup de choses à dire. L'idéal démocratique américain, peut-être même européen également, c'est à la fois du symbolique et du politique. Et puis, le politique ou le symbolique au service du politique, plutôt, ça s'appelle du soft power. Cet idéal de démocratie, ça a beaucoup nourri une forme de soft power américain dans les relations internationales. Évidemment, je pense à l'après-guerre. Est-ce qu'il existe toujours ce soft power américain et est-ce qu'il a encore un sens dans les différents pays du monde aujourd'hui et quelle forme il prend? Je ne sais pas si quelqu'un veut réagir là-dessus ou si quelqu'un dans le public également. Ursula Zwiller.
Si nous regardons un peu en arrière, encore pendant du temps Reagan ou aussi pendant la présidence Bush, constatait quand même un certain missionnarisme des États-Unis dans sa politique étrangère. Un missionnarisme dans le sens, le monde doit guérir à l'américaine. Et puis c'est nous qui avons la recette pour. Et la démocratie américaine est un modèle qui doit être copié en Irak, en Afghanistan et ailleurs. Et c'est l'échec total. Et avec l'arrivée d'Obama et surtout de Mme Clinton comme ministre des Affaires étrangères, et ça a quand même passablement changé. Et un des grands succès de l'administration Obama, qui s'est retiré de l'Afghanistan et de l'Irak avec beaucoup de peine, mais ils l'ont fait, et qu'ils ont mis sur le soft power. Ça veut dire sur les idées, sur l'influence économique, etc. On peut discuter si c'est du soft power ou non, mais je crois qu'il y a quand même eu un assez grand changement entre la dernière présidence Bush et l'administration Obama, encore une fois très freinée par les deux chambres parlementaires. Ils n'ont pas pu faire, parce que c'est la première chose qu'il a dit, il va fermer Guantanamo. Il a jusqu'à maintenant pas réussi, mais pas parce qu'il ne voulait pas, parce qu'il ne pouvait pas.
Alors je regarde juste l'horloge et je vois que nous serons bientôt invités à prendre un verre et puis à poursuivre aussi la discussion tous ensemble et peut-être de façon plus informelle. Ce soft power aujourd'hui, est-ce qu'il existe encore ? Quel idéal les États-Unis, quel idéal de société, quel idéal politique et idéal culturel les États-Unis peuvent encore incarner aujourd'hui dans le monde ? Et est-ce que ça prend une forme différente ? Ou qu'est-ce qui se dessine peut-être pour demain ? Est-ce que c'est des formes d'influence qui évoluent un petit peu aujourd'hui ?
Moi, je crois qu'il y a différentes formes de ce qu'on appelle soft power. Et par ailleurs, c'est un concept qui est assez flou. Mais pour moi, je suis frappé par le fait que, donc, d'une part, les États-Unis continuent à exercer donc comme pôle d'attrait pour pas mal de personnes partout dans le monde qui voudraient y émigrer, etc. Ça, c'est un constat. On voit les gens qui sont foncièrement hostiles, comme je vous ai dit la semaine dernière, donc à la politique étrangère américaine, et ils ont raison, évidemment, mais qui ont tous des cousins à Detroit ou une tante à Los Angeles, etc. Et ça, c'est vraiment frappant. Ça continue à être à ce moment-là donc un pays d'immigrés. Ça, c'est une sorte d'attraction. Il y a évidemment ceux qui se jouent donc sur le niveau donc des mythes, des fictions, etc. Mais pour moi, il y a également quelque chose qui est important du point de vue des relations internationales. Et ça, c'est le fait qu'effectivement, les États-Unis ont su, en quelque sorte, créer certains types d'organisations. Et pour moi, ça c'est un des grands défis maintenant à la démocratie. Ce n'est pas seulement donc sorte de fanatisme, etc., mais également les organisations, telles que par exemple aux États-Unis, le NSA, la National Security Agency, où on voit qu'il y a des liens tissés avec presque chaque pays en Europe, y compris ici en Suisse, etc. Et effectivement, les gens qui travaillent sur les écoutes, les surveillances, etc., ils raisonnent de la même façon. Ils réagissent de la même façon. Et si on a lu, par exemple, l'autre jour, la déclaration de M. Cameron en Grande-Bretagne et du Premier ministre en France, etc., on voit exactement le même type de raisonnement qu'ont fait les États-Unis après le 11 septembre. Et c'est une logique qui n'est pas seulement axée sur un peur, évidemment, des attaques terroristes, mais également sur la notion qu'il y a des choses cachées que nos services secrets peuvent nous aider. Et c'est, disons, une logique organisationnelle qui est vraiment partout et qui, par ailleurs, existe bel et bien de façon vraiment très, très vive, par exemple, au sein des Nations Unies, dans le Conseil de sécurité, pour des sanctions, pour des listes qui sont mises à jour chaque mois des terroristes, etc. Pour moi, c'est vraiment le grand défi, pas seulement de la démocratie américaine, mais en fin du compte pour un certain type de rêve américain.
Je ne sais pas si quelqu'un veut aussi conclure ou apporter un élément de conclusion sur ces défis à venir et ce modèle ou ces modèles que les États-Unis pourraient incarner. Marc Attala, et puis on va faire un tour de table.
Ouais, pour conclure, alors justement par rapport à cette, l'avantage avec les concepts comme soft power qui sont assez larges, c'est qu'on peut y mettre beaucoup de choses dedans, qui est peut-être le seul avantage. Mais pour conclure par rapport à la question des imaginaires que je trouve assez intéressant, peut-être pas en termes de puissance politique ou d'influence politique, mais je crois assez intéressant, j'entends passablement, en particulier au musée, de gens qui constatent, alors parfois avec effroi et parfois de manière assez neutre, à quel point leurs enfants, petits-enfants sont contaminés par, on va dire, les productions culturelles américaines qui sont quand même immenses. Si vous réfléchissez à ce qu'on consomme, séries TV, romans, bandes dessinées, jeux vidéo, et quand vous jouez à un jeu sur votre iPhone, c'est un truc américain, au cas où. Cette idée de, voilà, au terme de technologie, de développement technologique qui évidemment contient des valeurs, hein, et des idéologies associées, donc c'est pas juste le film, c'est aussi ce qui va avec, on se rend compte qu'en fait on baigne complètement dedans, que c'est pas forcément mal par ailleurs, ce qui peut-être un peu blesse narcissiquement l'Européen, c'est que c'est peut-être pas très bien, pas tellement mal, et moi je constate à quel point on connaît mal cet imaginaire là qui est pourtant le nôtre. Et moi qui suis un fervent défenseur des années 80 parce que j'étais ado, je me rends compte à quel point en fait il y a une stigmatisation de l'esthétique américaine aujourd'hui qu'on voit dans les écoles par exemple. Qui sait parmi vous qui lit de la BD américaine? On se rend compte qu'il y a très peu de gens. Les gens, quand ils lisent des romans américains, ils prennent Faulkner, etc. Mais je me demande combien de personnes lisent Faulkner aux États-Unis, à part dans les écoles. C'est un peu comme Balzac ici, qui sait qu'il lit encore Balzac, de lui-même, comme ça. Et c'est peut-être un défi que je verrais plus pour l'Europe que pour les États-Unis, puisque je ne suis pas un spécialiste des États-Unis, c'est de voir dans quelle mesure notre imaginaire est imprégné d'esthétique américaine qu'on ne connaît pas. Et là, c'est peut-être le soft power le plus dangereux. Parce que si vous ne connaissez pas d'où viennent les codes esthétiques ou les codes de représentation ou autres qui font pourtant partie de votre imaginaire, alors vous ne vous comprenez pas, en fait. Et l'idée de se mettre en récit, ce que les Américains appelleraient le storytelling, qu'on n'arrête pas de critiquer, mais c'est ce qu'on appellerait l'acte de narration, le fait de mettre en récit notre propre imaginaire est aussi une manière de comprendre le monde dans lequel on vit. Pas simplement de dire « il y a un océan entre deux, tout le monde est content », parce que les ondes électromagnétiques traversent l'océan sans aucun problème, comme on peut le voir avec les TV. Et c'est peut-être aussi quelque chose qui est souvent entendu avec des auteurs américains ou des réalisateurs américains, c'est de dire à quel point les Européens ne comprennent pas ce qu'ils font, mais en même temps s'en gavent. Et ça, c'est peut-être quelque chose qui nous va dire, peut-être qu'on doit commencer à regarder ça au niveau culturel, parce qu'après, sur les autres niveaux, c'est autre chose. Moi, c'est ce que j'espérerais pour les prochaines années, c'est que les mondes de la formation et de l'éducation, qu'ils soient du scolaire jusqu'à l'universitaire, commencent à se penser un petit peu là-dessus, en arrêtant les idéalisations bourgeoises de type de lire que les grands auteurs américains, mais aussi de se rendre compte que l'imaginaire de quasiment tout le monde aujourd'hui en Europe est profondément imprégné de ce qu'on appelle, et c'est peut-être là la blessure narcissique la plus profonde, le populaire. Hein, le populaire.
Ce regard européen. On va bien sûr pas épuiser le sujet, mais en quelques mots, évidemment, c'est un défi assez difficile, mais je vous en crois capable, bien sûr. Patrick Vincent, voilà ce qu'on peut voir comme peut-être les défis et l'idéal que l'Amérique peut encore incarné aujourd'hui, selon vous,
Je vais être très bref. On a été assez critique ce soir, je crois, concernant ce fameux rêve américain. J'aimerais être un brin nostalgique et le défendre. David Sullivan a parlé de la pauvreté du vocabulaire dans cet imaginaire américain. Mais je trouve que des mots comme liberté, égalité ou droit au bonheur continuent quand même à avoir leur sens dans le monde dans lequel on vit. La démocratie est quelque chose qui doit se construire chaque jour. On essaye de bâtir cette city on the hill, cet idéal de communauté que les puritains ont voulu créer, un modèle pour le monde. On n'y a pas réussi encore, mais je crois que si c'est ça le soft power, moi je suis pour. Parce que c'est quand même l'idée de pouvoir vivre libre en communauté est un idéal important encore pour moi. Et j'y tiens beaucoup. Voilà.
Ursis Villers, en quelques mots également, cet idéal qui s'incarne ou qui pourra continuer à s'incarner, il prendra quelle forme selon vous ?
Les États-Unis sont aussi imparfaits que tous les autres pays, sauf le fait qu'ils sont le seul superpower, ils sont la cible préférée
évidemment, de tout le monde. S'ils interviennent quelque part, Irak, Afghanistan, on les attaque. S'ils n'interviennent pas, Libye, Syrie, on les attaque aussi. C'est le sort qu'a le seul super-pouvoir du monde. Il va vivre avec, mais ils sont aussi imparfaits que nous tous. Le US bashing, taper sur les États-Unis, était évidemment très à la mode du temps de l'ère Bush, Irak, Afghanistan et avant Vietnam, etc. Ça a beaucoup baissé du temps d'Obama, mais ça reste un phénomène. Et si nous devions choisir à la fin d'avoir comme seul superpower les États-Unis ou la Russie ou la Chine ou quelqu'un d'autre, je crois la majorité serait encore d'accord. Alors, on préfère quand même encore les États-Unis.
Voilà, on va rester là-dessus. Alors, tout le monde n'est peut-être pas d'accord et vous aurez l'occasion peut-être autour d'un verre de dire votre désapprobation ou votre approbation de ce constat. On aurait pu consacrer une heure entière au regard européen qui informe le rêve américain et qui est évidemment influencé, comme vous l'avez dit, Marc Attala, là-dessus. Merci beaucoup d'avoir participé avec nous à ces discussions. Merci à vous tous d'être venus y assister et y participer. Et je vous invite tous à poursuivre la discussion donc autour d'un verre. Je crois que c'est juste à côté, c'est ça ?
Alors voilà, avant de passer au buffet proprement dit, qui est copieux, qui est dans une salle à côté, donc je vous réserverai la surprise, j'aimerais encore attirer votre attention quelques minutes, puisque c'est l'occasion de ce 10e anniversaire, et que nous avons eu la chance tout au long de ces années d'avoir un soutien sans faille du rectorat de l'université pour l'organisation de ces rendez-vous. Deux représentants du rectorat sont parmi nous. Je voudrais remercier Mme Simona Pécarec-Deleur, qui est ici avec nous, et également Jean-Jacques Aubert, qui est aussi vice-recteur, et qui va dire quelques mots au nom du rectorat, puisqu'il est aussi membre du comité des cafés scientifiques neuchâtelois. Voilà. Merci donc à eux et...
Alors, monsieur l'ambassadeur, mesdames et messieurs, au nom du rectorat, j'aimerais vous remercier d'être venu ce soir pour fêter avec nous ce 10e anniversaire. Le rectorat est très satisfait, en fait, de la formule parce que ça permet chaque mois d'amener dans les murs de l'université un public assez varié qui participe à des discussions qui sont organisées par l'université. Ça nous donne l'occasion d'avoir des débats parfois assez virulents, on pourrait dire. Ce n'était peut-être pas le cas ce soir, mais parfois nous avons des débats qui échauffent un peu les esprits. Il me semble que la formule ne vieillit pas en 10 ans, parce qu'on a toujours le même plaisir à entendre des intervenants qui changent ou qui reviennent. Et je dirais que pour le rectorat, cette interface entre l'institution qui est la nôtre et puis la cité est tout à fait valorisée par les cafés scientifiques. Alors j'aimerais remercier avant tout Igor Chlebny qui, année après année, organise et coordonne ces cafés scientifiques. Et puis, j'aimerais aussi vous dire à vous à quel point votre présence est importante, parce que c'est grâce à vous que nous pouvons continuer l'expérience. Donc, au nom du rectorat, je vous remercie ici d'avoir participé ce soir et de revenir les prochaines fois.